Parce que les muliers, leur projet dans la vie, c'est d'amasser des millions, des milliards, des milliards, des milliards jusqu'à la fin des temps pour toute la famille Mulier, comme si on avait affaire à une espèce de royaume. Et cette logique du profit, elle amène à ça.
Ma collègue Marie-Renée vient me voir pour avoir de ce palin pour nettoyer sa caisse. Et c'est là que je me lève. Je range le sopalin, je me tourne et je regarde mon fauteuil. De sang partout, partout, vraiment partout. Tout le fauteuil était plein, plein, plein de sang. Si Ushua m'avait écouté depuis le début, j'aurais pas fait une fausse couche. J'aurais été bien dans ma peau, dans mon corps qui était en train de changer.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est La Passe, j'y suis, avec Sylvie Coma.
Auchan.
Et vous, la vie, vous l'aimez comment?
Auchan.
Flight number 2, arriving from New York.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
La salariée d'Auchan, victime d'une fausse couche, porte plainte contre le groupe pour non-assistance à personne en danger. Cette caissière de 23 ans accuse ses supérieurs de ne pas avoir pris en compte sa grossesse quand elle leur a annoncé. Elle n'a notamment pas pu effectuer de visite médicale. C'est ce manque de considération qui a provoqué la fausse couche, selon elle.
Voilà, alors nous sommes à Tourcoing et on va aller voir Fadila, 23 ans, caissière en contrat professionnel à Auchan City. Et qui a fait une fausse couche sur son lieu de travail le 22 novembre, après avoir vainement appelé au secours la direction du magasin pour avoir des horaires aménagés, le droit de prendre des pauses quand elle en avait besoin. Et puis aujourd'hui, on va aussi rencontrer les militants de l'union locale de la CGT, toujours à Tourcoing, qui soutiennent Fadila depuis le début. C'est grâce à eux que la petite caissière est sortie de l'anonymat des milliers d'employés des magasins Auchan. Alors les médias ont un peu parlé de cette histoire, mais ils se sont bien souvent arrêté à son caractère triste, inhumain. Et nous, on va aller plus loin. Depuis la caisse de Fadila, on va remonter jusqu'au propriétaire de l'enseigne Auchan, l'empire familial Mulier. Et on va notamment commencer par rencontrer Benoît Boussemard, docteur en économie, le grand spécialiste de la nébuleuse Mulier. Il connaît l'empire familial sur le bout des doigts et leur a consacré des milliers de pages dans des bouquins qui font référence.
1961, le 6 juillet, Gérard Mulier ouvre le premier magasin à la périphérie de Roubaix face au quartier neuf des Hauts-Champs. 30 personnes y travaillent, on trouve tout sous le même toit. Sur le parking, on distribue déjà l'essence. Le premier hypermarché devient en 1968, avec ses 13 000 mètres carrés, son vaste parking et les boutiques de la galerie, le plus grand hypermarché de France. Un espace à parcourir.
La vie pratique est aussi à Auchan.
Alors, monsieur Benoît Boussemard, Vous êtes la bête noire de la famille Mulier.
Je suis un universitaire de formation, donc j'ai enseigné à Nanterre pendant moult années. Je suis à la retraite maintenant.
Économiste
marxiste.
Vous êtes venu avec votre cartable, votre ordinateur, oui. Et vous êtes en train de sortir tout ça.
Alors, je vais vous présenter l'organigramme Auchan. Mm-hmm. Voilà, donc.
Oula. Alors, parlez-nous justement de l'Empire Mulier. Ce n'est pas un groupe. C'est un empire familial, ouais. Ça, dont les actionnaires sont tous parents, ligne directe.
Alors voilà le groupe Mulier.
Alors là, c'est quelque chose.
Ça, c'est beau, non? Donc celui d'Auchan, il fait que ça, dans le petit schéma. Et donc tous ces gens-là...
Tous Mulier.
Ce sont toutes des sociétés, vous voyez, les cinq sociétés-là sont toutes contrôlées par les sociétés civiles de chacun des Muliers. Donc, quand on est un enfant Mulier, on touche son paquet de titres société civile, gros paquet comme ça, à sa naissance. D'accord? Et donc, je ne sais pas, ils doivent être 500-600, hein, c'est ça maintenant. Donc, quand on est...
500-600, donc, membres de la famille.
Obligatoirement descendant par le sang de Louis Mulier Lestienne. Ça, c'est important. Si vous n'êtes pas descendant par le sang, vous n'avez droit à rien.
Donc, les gendres et tout ça, là?
Rien. C'est les dames qui dirigent. Donc, dans ce cas-là, par exemple, quand on est chez Noroto... C'est M. Derville qui a créé Noroto, donc lui, il a un tout petit paquet d'actions. Mais c'est sa femme, bien entendu, qui a porté l'argent au départ, et donc c'est Mme Derville Mulier qui est au contrôle de tout ça. Alors maintenant, bien entendu, les enfants s'appellent Derville. Comme ils sont de sang Mulier, ils contrôlent, bien entendu, les sociétés. Même s'ils s'appellent Derville, ils ont du sang Mulier. Donc, ils ont le droit à avoir leur titre.
Auchan installe une galerie marchande autour d'un hyper. L'essence y est en vente libre à prix réduit. Le centre commercial d'aujourd'hui est né.
L'organisation. Pour chacune des femmes et chacun des hommes qui travaillent dans l'entreprise, du partage du savoir, du partage du pouvoir et du partage de l'avoir.
La vie Auchan, elle change la vie.
Voilà, alors comme nous l'explique Benoît Boussemard, à un bout de la chaîne, on a donc un empire familial, celui des tout-puissants muliers, propriétaires entre autres des magasins Auchan. Et à l'autre bout, il y a Fadila, la petite caissière qui a fait une fausse couche devant son écran et son tapis roulant. Et c'est elle qu'on va rencontrer maintenant. Elle nous attend dans son petit studio. Fadila, vous êtes toute jeune, toute belle, toute jolie. Vous avez porté un petit voile un peu brillant. Vous nous recevez chez vous, c'est gentil. On va être obligé de raconter l'histoire qui s'est passée.
D'accord. Bah, j'ai commencé à travailler pour Auchan en novembre. Mais au début de ce travail, j'ai commencé à avoir des malaises. Donc là, je découvre d'être enceinte. Et je dis tout de suite à la direction que c'est une grossesse. Donc là, je demande de pouvoir modifier un petit peu mon planning parce qu'il était trop chargé. Et 7 heures de travail avec donc 20 minutes ou un petit peu moins de pause. Et dans cette pause, on doit se rendre à la toilette, manger, appeler.
Pour 7 heures de travail, vous n'avez que 20 minutes de pause pour manger et puis, comme vous dites, ouais, aller aux toilettes, téléphoner. Enfin.
Exactement. Bon, bah, je demande donc de pouvoir aller aux toilettes de temps en temps parce que j'avais des vomissements, des douleurs au ventre, etc. Donc, ils n'ont même pas pris en compte ma demande. Pas de réponse toute la semaine comme ça. J'avalais mon vomi. Ça montait comme si on...
Les nausées.
Oui, exactement. Et je devais le retenir. À la fin de la semaine, je n'en pouvais plus. Je suis partie voir mon médecin et mon médecin m'a donné un arrêt. Mon médecin, il m'a dit de prendre plus.
Prendre plus de jours.
Oui. Mais comme j'avais la pression sur moi, j'ai dit non, je prends une seule semaine. Est-ce que, voilà, j'ai peur de perdre mon poste. Bon, lundi, je reprends le travail, le 22 novembre, et j'étais mal dès le début. J'ai bien informé l'accueil que je n'étais pas bien. Ils me disent oui, ça rentre par là comme d'habitude et ça sort par là. Donc ce jour-là, je me rends à ma caisse et je commence à travailler. J'ai des douleurs plus fortes qu'avant.
Au ventre.
C'était vraiment difficile pour moi de regarder sur l'écran, etc. Donc c'est là que j'appelle pour une première fois au secours. Ils me disent, de toute façon, il y a quelqu'un qui vient faire ta pause. Il était en route, en fait, quand j'ai appelé. Donc j'ai dit, ça tombe bien, parce que je dois aller aux toilettes. Donc bon, j'y vais. Malheureusement, là, si je vomis, etc., toutes les nausées, tous les troubles d'une grossesse. Donc, bon, je reprends mon poste et les douleurs, c'était depuis 14 heures. Mais à 17 heures, ça commence à être plus fort qu'avant. Et là, c'est vraiment comme si quelqu'un me coupait le ventre avec un couteau.
Qui vous aviez appelé, alors?
C'est l'accueil, toujours. C'est eux, les responsables de zone de la caisse. 3 fois, je l'ai appelé. 3 fois, j'ai eu la même réponse. Je sais, Fadila, courage. Bon, donc là, c'est 20 heures.
20 heures?
Ouais. 14 heures, 20 heures. Donc, je dis, Fadila, tiens sur toi. Il n'y a plus rien à faire. Les clients sont de plus en plus nombreux et je ne me suis jamais levée depuis que j'ai eu ma pause. Ma collègue Marie-Renée vient me voir pour avoir du sopalin pour nettoyer sa caisse. Et c'est là que je me lève. Je range le sopalin, je me tourne et je regarde mon fauteuil. Du sang partout, vraiment partout. Tout le fauteuil était plein de sang. Et je dis, mais c'est quoi? Parce que moi, quand j'étais assise, je sentais quelque chose comme si quelque chose allait sortir de moi. Mais je n'avais même pas le temps de regarder entre mes jambes, au fait, si ça n'allait pas.
Tellement il y avait de clients, ouais. Et tellement il fallait travailler à la caisse.
C'est une chose incroyable, c'est de la pression qu'il y a derrière tout ça, franchement. Donc là, je prends la décision de fermer la caisse. C'est là que l'accueil vient me voir. Elle me dit, pourquoi tu fermes? Tu termines à 21h. J'étais en larmes. Donc j'appelle les pompiers. La sécurité appelait en premier.
Mais c'était même pas la sécurité du magasin.
C'était la sécurité de la galerie du centre commercial. Et donc, les pompiers, ils viennent. La première chose qu'ils me disent, mademoiselle, madame, est-ce que vous êtes partie aux toilettes? Je dis non. J'ai pas eu l'occasion de partir aux toilettes. Donc, j'ai déjà eu ma pause. Et donc là, je pars et aux toilettes. Et c'est là que... Je regarde et je dis, oh mon Dieu. Et je pleure. Et le pompier, il me frappe à la porte et me dit, bah, essayez de vous reprendre et sortir parce qu'on va rentrer. Et ne tirez pas la chasse, surtout. Et c'est là qu'un des pompiers met des gants et il ramasse. Il ne me la montre pas. Même moi, j'avais déjà vu, donc... Et donc, bon, bah... Et il me ramène à l'hôpital. Je reste toute la nuit, comme ça, avec des douleurs. Et bon, bah, le lendemain, j'attends l'appel du champ. Il n'y a personne qui m'appelle. C'est moi qui prends la brigue à 9h de les appeler pour dire est-ce que Madame Brunet, la responsable, elle est là? Ils me disent non, elle n'est pas encore arrivée, elle va arriver à 11h. Donc j'attends jusqu'à 11h. Il n'y a personne qui m'appelle. Je prends encore le téléphone et j'appelle à 11h30. Est-ce que Wendy est là? Ils me disent oui. Bah, passez-moi la main, s'il vous plaît, parce que je dois parler avec elle. Je lui dis, vous n'avez pas eu mon message de m'appeler? Il me dit oui, oui, et par rapport à ça, il faudra ramener un justificatif parce que vous êtes parti avant l'heure. Je dis, mais pourquoi t'as appelé en fait Fadila? Pourquoi t'appelles des personnes comme ça? Bon, à la sortie, en fait, je me rends à Ocean City pour leur ramener le justificatif. Et c'est là qu'elle me regarde, elle prend la feuille et fait la photocopie de la feuille. Elle me demande si je viens travailler le lendemain. Je lui ai dit, aujourd'hui, je ne sais pas. Demain, je ne sais pas.
Pas un petit mot de réconfort
Elle m'a dit juste, bah d'accord, tu me tiens au courant? Et ce n'est pas fini, malheureusement. J'ai eu un appel jeudi de la direction d'Auchan, donc d'un monsieur Mougère, parce qu'il y a eu un problème aussi de badge, donc ma fiche de paye n'était pas payée. Les frais d'hospitalisation, elles n'étaient pas prises en charge par l'employeur. Et mes arrêts maladie, ils sont aujourd'hui en règle, mais ils n'étaient pas en règle avant. Donc j'ai eu que 350 euros tout le mois, au lieu de 900 et quelques euros. Donc d'un monsieur Mougère, il m'appelle et me dit, Fadila, samedi je vous invite, 24 décembre, on va parler tête à tête, seul à seul, mais laissez la presse en dehors de ça.
Ah.
En gros, fermez votre bouche, on cache tout. On va régler entre deux. Bah, ça veut dire que vous allez me payer pour fermer ma bouche. Bah non, moi je l'accepte pas. Donc, je vais pas être leur bouffe de Noël. J'ai pas encore envie d'entendre des choses qui vont me faire mal. Il y a manque de respect et foutage. Et en plus, c'est le seul contact qu'on a eu avec Ouchan. Si Ouchan m'avait écouté depuis le début, depuis le 4 novembre, j'aurais pas fait une fausse couche. S'il m'avait donné la possibilité d'aller aux toilettes, j'aurais pas fait une fausse couche. J'aurais pas avalé mon vomi. J'aurais été bien dans ma peau, dans mon corps, qui était en train de changer. Mais non.
Alors Fadila, avec l'aide de l'Union locale de la CGT de Tourcoing, a déposé une plainte contre Ocean City pour non-assistance à personne en danger. Une sacrée gageure, parce que c'est pas rien de s'attaquer à la famille Mullier, comme va nous l'expliquer l'économiste Benoît Boussemard, qu'on retrouve, et qui connaît parfaitement ce que pèse le clan au niveau national et mondial.
La vie au champ, elle change la vie.
Mais quand même, Benoît Boussemard... Pourquoi vous vous êtes tout d'un coup branché sur l'Empire Mullier, vous ?
Ah ben moi, c'est simple. J'avais fait une thèse sur l'évolution de l'industrie textile dans le Nord-Pas-de-Calais. Mmh. Au départ, la famille Mullier, c'était Fildar, qui était créée par le père de Gérard Mullier, père. Attention, ouais. Parce qu'ils s'appellent tous ceux qui sont en tête de la famille et qui descendent, ils s'appellent tous Gérard. Hein.
Ah bon ?
Ah ben oui, c'est comme ça. Les Louis, il y a au moins 5 Louis à 5 générations différentes.
Comme les rois.
On est d'accord. Donc c'est bien ça. Et à partir de là, donc, on a Gérard qui possède les titres qu'il détient de Louis Mullier-Lestienne, donc, puisqu'il est un des 11 enfants de Louis Mullier-Lestienne. Et donc lui, il crée Fil d'Art.
Donc ça, c'était dans les années quoi, 60 ?
Ah, dans les années 50, hein. Non, même avant.
Fildar, c'est la laine, hein, les plottes de laine.
C'est de la laine, oui. C'était un empire lainier, hein, au départ, la famille Mullier. Et donc, Gérard Mullier ne savait pas très bien quoi en faire, fils. Et donc, ils lui ont donné un petit friche industriel qu'ils avaient du côté de l'avenue Motte, hein, c'est ça, dans le quartier des Auchan. Et donc, avec ça, il a créé un petit hypermarché qui s'appelait Auchan, puisqu'il était dans le quartier des Auchan.
À Roubaix.
Et c'est comme ça qu'il a commencé à Roubaix, oui. Voilà. Et donc, on en est là maintenant. Donc, un groupe qui pèse à peu près, voilà. En termes de chiffre d'affaires, au niveau mondial, nous, on l'estime à peu près à, c'était 85, 87 milliards d'euros. Hein. Donc, je parle du chiffre d'affaires consolidé de l'ensemble des sociétés qui sont là, dans ce d'accord. gros schéma avec Boulanger.
Il y en a combien à peu près ?
J'ai un fichier qui atteint à peu près 1500 sociétés. Ah bon ? Ben, avec tous les échelons que vous avez là, un échelon, pour une société, vous avez déjà 5-6 sociétés différentes. Donc... on a sans problème 1000 à 1200, 1500 sociétés dans ce truc, oui.
Bon, et combien, alors, ce groupe-là pèse-t-il au niveau de la France ?
Ah, au niveau de la France, c'est le premier distributeur français. Dans leurs hyper, ils vendent des fringues, ils vendent du mobilier. Quand on rajoute effectivement les Kiabi, quand on rajoute Leroy Merlin, quand on rajoute Boulanger, quand on rajoute Tapis Saint-Maclou, etc., etc., quand on fait le total de tout ça, c'est bien plus... que tous les autres que l'on a en France. Quand vous achetez quelque chose, à peu près, sur 100 euros de dépensés, il y en a 10 qui vont dans les poches du commerce familial Mullier, entre 10 et 12.
Chaque fois qu'on achète des produits de consommation ouais. courante...
Oui, sauf la voiture, hein, je parle. Sauf voiture, toute la consommation française, que vous achetiez des habits, que vous achetiez de l'électroménager, vous achetez du bricolage, des tas de trucs comme ça, vous allez au restaurant... 12 euros sur 100 passent par les poches Mullier.
Kiabi, la mode à petit prix.
Naruto. Y'a que chez Flunch qu'on peut
fluncher. Oh 5 euros.
Ça fait mal, hein?
Oui.
Oh. Décathlon à fond la forme. Oh.
Le roi Merlin et vos envies prennent vie. Saint-Maclou, inspirez-vous.
La vie au champ, elle change la vie.
Benoît Boussemard. Oui. L'Empire Mullier. Ils sont devenus les champions de l'optimisation fiscale.
Non, ils sont parmi d'autres.
Comment ils se débrouillent ?
Par exemple, si je suis Gérard Mullier, je peux faire une optimisation fiscale facile, puisque normalement, je devrais être imposé sur les grandes fortunes. Mais comme je gère mes entreprises, la personne qui gère les entreprises n'est pas soumise à l'impôt sur la fortune sur les biens qu'elle possède, parce que ce sont des biens professionnels. Donc lui... Il a raison de dire « moi, j'ai jamais été un exilé fiscal » puisqu'il n'y a pas besoin d'être exilé fiscal. Les titres qu'il possède, ce sont des titres qui sont considérés comme étant des titres professionnels. Et donc, par définition, il n'est pas imposable là-dessus au titre d'impôt sur la fortune. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de l'exil fiscal. Donc, vous vous installez en Belgique, pas très loin de Roubaix, et donc vous bénéficiez des systèmes d'imposition belges. Or, les systèmes d'imposition belges sont très intéressants, dans tout le domaine de gestion de vos titres. C'est-à-dire que vous ne payez pas d'impôt sur les plus-values, et puis vous ne payez pas d'impôt non plus sur les revenus liés à ces plus-values. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des sociétés, comme on l'avait vu dans le cas de Patrick Mullier, etc., où il avait quelques millions d'euros de revenus par an, où il payait 200 euros d'impôt sur les sociétés, sur cette société-là, ouais.
C'est bien un paradis fiscal, ça, quand même.
La Belgique, ben oui. Eh ben alors quoi ? Tant que le gouvernement belge ne bouge pas sa législation... Tant que le gouvernement français ne demande pas une évolution de la législation et une harmonisation des législations fiscales, ça continuera comme ça.
Mais c'est un braquage monumental, ça.
On est bien d'accord. Quand on regarde le fameux Patrick Mullier, il a reçu avant impôt, entre 2008 et 2013, 298 millions de bénéfices. Pardon. Et il a payé zéro. Parce qu'il est allé en Belgique. Et donc, on peut reprendre après les sociétés. Hein. Je peux vous montrer un exemple. On va prendre la société de M. Patrick Mullier.
Hop. Patrick Mullier, c'est...
Le frère de Gérard.
C'est l'enseigne...
Kiabi. Donc, on va retrouver ça dans les sociétés civiles belges. Je vais vous montrer Concerto, parce que c'est joli, Concerto. 2015, 6 mois, les comptes annuels de Concerto. Voilà des comptes belges. Alors le concert, il est entre deux frères de la famille Mullier, deux frères de Gérard. Hein. Il est entre Patrick et sa société qui s'appelle Sépiche, et puis il est avec Jean, ici. Regardez combien il possède. Il possède en actif 2,5 milliards d'euros de titres.
À eux deux.
À eux deux. Donc ça veut dire que chaque frère Mullier, ou chaque enfant Mullier de Gérard, ils sont 6, avait 1,25 milliard chacun.
Ah, parce que ça, c'est le cadeau...
C'est le cadeau du papa Mullier, Gérard, père, aux enfants.
Cadeau de naissance.
Qui a rapporté, bien entendu, puisqu'il avait passé au départ. Hein, bon.
Oui.
Alors, vous voyez que l'astuce des intérêts notionnels, c'est que là-haut, il a un capital de 2,5
milliards. Oui.
Donc, il fait un bénéfice de combien? Les produits financiers, c'est 15 millions d'euros par an. Donc ça, c'est ce qui touche sur les placements à 2,5 milliards.
C'est ce que ça lui rapporte.
C'est les dividendes. Essentiellement les dividendes. Donc 15
il
millions,
se fout dans la poche 15 millions tous les
année.
Ans.
Oui, à deux, 15 millions. 15 millions, si vous calculez un impôt sur le revenu, 15 millions, ouais, vous êtes dans la grosse tranche élevée, là, quand même. Hein. Et donc, vous devriez perdre à peu près 60% de ça, quoi. Et vous voyez combien il paye d'impôts ?
255 000 euros.
Sur 15 millions.
Sur 15 millions.
Ouais, c'est pas cher, hein.
Tout ça est donc tout à fait légal.
Bien sûr.
Le manque à gagner, dans le fond, tout cet argent qui...
Ben, il est payé par les contribuables belges. C'est les contribuables belges, parce qu'ils sont accueillis en Belgique. Normalement, ils devraient payer leurs impôts en Belgique, et que l'État belge leur permet de même pas payer les impôts. Donc, qui est-ce qui paye ? Ben, c'est les contribuables belges.
Ça vaut aussi, on peut dire que ça vaut aussi pour les Français, parce que c'est quand même...
Ça vaut pour toute l'Europe. Le problème, que ça soit un contribuable belge ou un contribuable français qui ne touche rien, l'essentiel, c'est que la famille Mullier, comme tous ces riches qui sont exilés à Monaco, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, etc., ne payent pas d'impôts, y compris pour les sociétés. Quand on regarde le cas de l'Irlande ou quand on regarde les machins comme ça, ce sont des législations qui ont été faites pour attirer des multinationales et les sièges sociaux des multinationales. On reçoit constamment des alertes sur le fait que tel gros groupe ne paye pas d'impôts. Mais il ne faut pas s'étonner, on permet de faire ça. C'est l'entreprise mondiale qui gouverne le monde, c'est plus du tout les politiques.
3 ans, la fulgurance, un chiffre d'affaires multiplié par 10, le personnel triplé, des prix serrés, le discount est la vocation de l'entreprise.
On sait qu'on peut y trouver boucherie, boulangerie et pâtisserie traditionnelle. Auchan fabrique son pain.
Le projet d'Auchan, c'est toute une entreprise au service du consommateur.
Gérard Mullier, créateur d'Auchan.
Les moyens qui ont été employés, qui seront employés dans le futur, sont au nombre de 3. Premièrement, la distribution à marge réduite, parce qu'elle seule permet l'amélioration continue du pouvoir d'achat. Deuxièmement, le dégagement des profits nécessaires pour investir, créer des emplois, innover. Troisièmement, l'organisation, pour chacune des femmes et chacun des hommes qui travaillent dans l'entreprise, du partage du savoir, du partage du pouvoir et du partage de l'avoir.
1961, le 6 juillet, Gérard Mullier ouvre le premier magasin à la périphérie de Roubaix, face au quartier neuf des Hauts-Champs. 30 personnes y travaillent, on trouve tout sous le même toit. Sur le parking, on distribue déjà l'essence.
Revenons à Ocean City et à la galaxie Mullier. Est-ce qu'on peut estimer le montant du braquage de la famille Mullier?
Ah oui, ça c'est clair. Je vais vous trouver un onglet où on avait fait le calcul du braquage fiscal. Voilà, impôts payés par la famille Mullier. Parce que Gérard Mullier avait dit qu'il avait payé beaucoup d'impôts à un moment donné. Il avait dit, j'ai payé, moi et ma famille, à peu près 14 milliards d'euros hein, d'impôts.
En combien de temps?
En 10 ans, quand même. Hein. Quand même. Donc, on a repris les calculs. Donc, on a refait les calculs entre 2005 et 2014, parce que 2015, il n'y en avait pas encore. Alors, c'est vrai que quand on regarde les impôts payés en France, par les sociétés, hein, pas par la famille. Attention, c'est une grosse distinction. Auchan, il a payé non pas les 14 milliards que disait Gérard sur 10 ans, mais il a payé à peu près, avec les autres, 8 à 9 milliards. Bon. Par contre, les autres sociétés ne payent pas. C'est-à-dire que quand vous remontez au-dessus...
Aux membres de la famille.
Voilà. Au plus, vous montez. Quand vous êtes avec un impôt qui a déjà été payé par votre société, vous ne le repayez pas une deuxième fois. Puisque vous ne le repayez pas une deuxième fois, il vous est déduit de l'impôt théorique qu'on vous demande. Et donc, quelquefois, ça peut être un impôt négatif. C'est-à-dire que c'est l'argent qui est payé par l'État cette fois-ci, au contribuable, donc à la famille Meulier. C'est sympathique.
C'est-à-dire, attendez. Non seulement, vous êtes en train de me dire que dans certains cas de figure, non seulement la famille Meulier ne paie pas d'impôts, mais reçoit de l'argent.
Absolument. Et ce n'est pas les seuls. Hein. Vous prenez la famille Arnaud, c'est la même chose. La famille Arnaud, chaque année, récupère de l'argent de l'État.
Et alors, ça se montrait à combien, tout
ça? Alors ça se monte à... Il faut que je retrouve ma feuille de calcul. Donc là, par exemple, je vous disais, pour les holdings intermédiaires, le Bricot, Marché, etc., le taux d'imposition de ces sociétés-là, on a remonté d'un cran seulement. Il est de 2,2%. Et donc, après, vous voyez ici que quand on remonte d'un cran supplémentaire, là, c'est un impôt négatif. C'est-à-dire que l'État français leur remboursait sur la période en question, entre 2009 et 2013, 537 000 euros d'impôts. Alors qu'ils ont déclaré 1 512 millions. C'est sympathique. Je déclare 1 512 millions et je reçois 537 000 euros d'impôts. Négatif. C'est gentil. Alors, au plus vous montez, au plus vous êtes amené à être remboursé. Bah si.
Auchan, c'est une politique de formation et d'information permanente. Un institut, des stages. C'est un management participatif avec plus de 400 cercles de qualité. C'est encore le partenariat avec l'industrie. C'est le confort de l'achat avec la carte Accor et les caisses Scanner.
Pour en revenir à Fadila, la jeune caissière qui a fait une fausse couche là, à sa caisse, à Auchan City, Tourcoing.
Il n'y a que deux personnes responsables, le directeur du magasin et de l'entreprise. Et au-dessus, Vianney Meulier et ses collaborateurs directs dans Auchan Holding, point. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autres intermédiaires, là. Il n'y a pas à se cacher après, derrière toutes les autres sociétés du groupe Auchan, ni Mauchan, ni quoi que ce soit, c'est M. Vianney Meulier qui est patron de Auchan Holding et qui est donc directement la maison mère de Auchan City, point. Quand on a des erreurs de ce style-là qui sont faites, et quand je parle d'erreurs, je suis très gentil, hein, quelqu'un qui perd son enfant parce qu'on ne peut pas aller se soigner normalement. Enfin, c'est quand même absolument incroyable. C'est des conditions qui sont, à mon avis, dignes du 19e siècle. Ils ont gardé une certaine tradition textile, hein, quand même, ici, à ce niveau-là, je veux dire. Parce qu'avoir des conditions de travail comme ça, c'est quand même incroyable. Surtout qu'en plus, on dit qu'on défend des valeurs morales, et des valeurs morales catholiques. Mais ça, ça a toujours été le cas, hein, je veux dire, historiquement... Le patronat chrétien a toujours très bien exploité ses salariés, sans aucun état d'âme. Il y avait les dames patronesses derrière. Maintenant, il y a des bonnes œuvres. Hein. Donc, on a des fondations, on aide des trucs. On a chaque année, je ne sais pas, moi, il y avait le fils de Gérard Meulier, Arnaud, qui était chaque année dans ces associations et qui montrait qu'est-ce qu'il faisait tout pour l'insertion des jeunes, etc. Vous allez sur le site Auchan, vous avez plein de petites fondations comme ça qui disent ça. Donc, on est sur « je vends une image ». Mais alors après, qu'ils fassent au moins le minimum pour que cette image soit respectée derrière dans les conditions de travail. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des encycliques qui ont été utilisées, les encycliques de Jean XXIII.
Donc du pape Jean XXIII.
Bien entendu, ils font appel à ces encycliques pour mettre en avant les valeurs morales de l'Église, qui sont les valeurs de la famille. Et notamment, toute une série de valeurs sur il faut être gentil, on est amour, etc. D'ailleurs, Gérard Meulier a écrit un bouquin sur l'amour du client. Lui, il fait tout ça par amour du client. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Il ne fait pas ça pour l'argent. Il fait ça pour l'amour du client.
Les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de l'Empire Meulier?
Les échos que j'en ai, moi, à chaque fois, c'est que la famille Meulier a créé beaucoup d'emplois.
500 000, non, c'est pas ça?
Oui, ça doit être dans ces eaux-là, hein, quand on regarde la totalité des emplois dans toutes les chaînes, etc. Mais ils ne disent jamais le nombre d'emplois qu'ils ont détruits. Ils ont détruit des emplois dans tout le petit commerce. Ils ont détruit d'emplois... comme les autres grandes surfaces, avec leur modèle, qui est un modèle qui favorise les importations. Donc, une grosse partie des délocalisations, etc., est imputable directement à tous ces gens qui veulent du moins cher, cocher moins cher, moins cher. On est aussi responsable comme consommateur, mais eux ont poussé bien évidemment à la roue, parce que c'était leur cheval de bataille, les prix bas. D'accord ? Ensuite, l'agriculture. On parle des agriculteurs qui se pendent tous les jours, etc., parce que leur exploitation est mise à mal par les prix. Qui est-ce qui fait les prix? C'est à la fois des gens comme Beignet, c'est à la fois des gens comme la grande distribution, ils sont pris entre deux feux. Et qui est-ce qui est derrière aussi? C'est nos gouvernants à Bruxelles, etc. Et les gens qui ici disent « produisons français, etc., faisons écolo, etc. » Mais qu'est-ce qu'ils font? Rien. Le gars qui essaye de faire une petite entreprise agricole vraiment écologique, il faut qu'il ait vraiment du courage. Le système ne favorise pas ça. Et tous nos hommes politiques, là, sont en train de le mettre à mal encore plus. Quand on parle de compétitivité, c'est quoi la compétitivité? C'est toujours moins pour les salariés, c'est toujours plus pour les profits. C'est ça la compétitivité. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on paye des caissières à 600 euros par mois. On empêche les paysans de produire des produits de qualité à un prix normal, etc., etc. On nous empêche de vivre, en fait. On n'a pas besoin de consommer 10 pains par jour, hein, mais on a bien besoin de consommer un bon pain par jour. C'est beaucoup mieux. Et on fait tout pour le contraire de ça. Donc, quand on dit que ces gens ont créé du travail, ils ont détruit beaucoup plus d'emplois. Moi, j'avais fait des calculs. Ils ont détruit beaucoup plus d'emplois comme les autres de la grande distribution. Ils ne sont pas les seuls à faire ça. Mais ils ont bien contribué à avoir un fonctionnement du système qui est devenu un système complètement pourri.
Le premier hypermarché devient en 1968, avec ses 13 000 mètres carrés, son vaste parking et les boutiques de la galerie, le plus grand hypermarché de France. Un espace à parcourir.
La diversification du groupe s'accélère dans la restauration et les surfaces spécialisées.
La vie pratique est aussi à Auchan.
Alors pour terminer l'histoire de Fadila et de l'Empire Mulier, il nous reste maintenant à aller voir ceux qui, depuis le début, ont pris l'affaire à bras-le-corps. Ce sont les militants de l'Union locale de la CGT de Tourcoing, et notamment Samuel Mégins, le secrétaire général de l'Union locale.
C'est vraiment une histoire dégoûtante. Elle est à l'image du capitalisme, finalement. Pour n'importe quelle personne qui est issue de notre classe sociale, ce comportement de la direction, Mulier, si c'était ta femme ou ta sœur ou ta fille qui avait fait ça, hein, est-ce que t'aurais autorisé qu'on pond un communiqué aussi honteux et dégueulasse qui dit oh, on est vachement triste, c'est malheureux, mais voilà, on a fait tout ce qu'il fallait faire, et puis de toute façon, c'est instrumentalisé par la CGT. De toute façon, dans ce magasin, c'est toujours la faute de la CGT. C'est honteux. C'est honteux. Le premier gamin dans la rue, il est plus honnête que ces gens-là. C'est pas pour rien que dans la direction de ce magasin, on choisit des petits chefs qui sont des faillots, qui sont des lâches. Voilà. Et nous, ce qu'on a vu, c'est une jeune fille qui, elle, ne demandait qu'à bosser, ne demandait qu'à construire sa vie, à s'intégrer. C'est une fille de notre classe sociale. Ah oui, elle s'appelle Fadila, elle porte le hijab, mais c'est ma sœur.
On pourrait s'arrêter, effectivement, au petit chef, comme tu dis. Après tout, qu'est-ce qu'il a à voir avec cette histoire, le grand Mulier, le Vianney Mulier, qui est le patron d'Auchan?
Les Muliers sont responsables premiers de cet accident du travail. Parce que les Muliers, leur projet dans la vie, c'est d'amasser des millions, des milliards, des milliards, des milliards jusqu'à la fin des temps pour toute la famille Mulier, comme si on avait affaire à une espèce de royaume. Et cette logique du profit, elle amène à ça. Et c'est ça, il faut faire le lien. Et il ne faut pas simplement se dire « Oh, c'est malheureux, la pauvre, la pauvre petite, etc. » Et puis taper effectivement sur les lampistes. C'est un système.
Vous avez reçu le soutien de beaucoup de personnalités du monde politique. Il y a eu Manuel Valls.
Ça m'a ému profondément.
Philippot, il ne vous a pas envoyé un petit message?
Alors, c'est un petit peu comme dans un conte, hein, où il y a la pauvre petite malheureuse qui est victime. Voilà, on a toujours besoin de ça pour nourrir une campagne électorale, pour nourrir des discours, etc. etc. Non, non, c'est pas un conte, hein. On est bien dans la lutte des classes, hein, très clairement. Et donc, effectivement, Philippot, j'ai vu, a eu quelques mots. Il a dû ignorer quand même une chose, c'est que Fadila, elle porte le hijab. C'est le genre de gens qui, lorsque Philippot et les siens seront au pouvoir, seront peut-être pourchassés dans les rues par des crânes rasés avec des battes de baseball. Hein. Bon. Non, Philippot, il peut avoir les discours qu'il veut. Nous, ce qu'on voit à travers ça, c'est que s'il y a quelqu'un qui prend la défense des Muliers et du patronat aujourd'hui, c'est ces gens-là. S'il y a quelqu'un qui trouve des excuses aux Muliers, aux capitalistes aujourd'hui, à partir du moment où on tape sur les Arabes, je veux dire, c'est ces gens-là. Et ça montre bien une chose, c'est que finalement, au bout du compte, les capitalistes, leurs plus fidèles alliés, lorsqu'il y aura d'autres Fadila et puis qu'il y aura d'autres ras-le-bol et que les gens en auront vraiment marre, ces capitalistes-là, ils pourront compter sur qui? Eh bien, ils compteront sur ce parti-là et sur le fascisme. Alors Valls, lui, qui est en campagne, lui, il a dit qu'il trouvait scandaleux, qu'il était révolté par la situation. Eh bien, moi, je trouve quand même étonnant que des gens qui portent des lois, qui les font passer par la force, des lois qui précarisent le monde du travail, des lois qui vont, par exemple, supprimer la médecine du travail, donc la question de la santé au travail, elle est directement impactée par ça. Je trouve surprenant que des gens qui soutiennent ce genre de loi soient émus par les effets qu'elles provoquent. Et alors je me suis réveillé donc hier matin avec le soutien de Manuel Valls. J'ai un petit peu bon, ouais, c'est intéressant. Mais ce matin, je me suis réveillé avec le soutien de Madame El Khomri. Alors si j'avais cru après les mois que je viens de vivre en scandant son nom dans les rues, si je m'attendais à ce qu'elle elle-même soit révoltée par cette situation et fasse diligenter une enquête par le ministère du Travail et l'inspection du Travail dans le magasin, bon là c'est pareil quoi. Je veux dire, elle est le symbole de la souffrance au travail. Elle est le symbole de l'absence de droit, de l'écrasement des salariés et de la toute-puissance des patrons. Alors après, on est en période de fête, Noël il vient de passer, il y a le petit Jésus dans la crèche, etc. Donc peut-être que c'est le moment aussi de s'émouvoir. Voilà. Mais je suis désolé, le siège de Fadila, il était plein de sang. Son pantalon était plein de sang. Et ce n'est pas El Khomri, ce n'est pas Valls, ce n'est pas la direction d'Auchan qui l'ont essuyé son siège. C'est sûrement un autre salarié. C'est nous qui avons les mains là-dedans. C'est eux qui le font couler le sang.
Y a du sourire à nos carreaux. Je savais pas qu'on était temps. Et tu m'as réveillé si tôt. C'est une marche de débraillé qui se défile le nez en l'air. Ça sifflote tout en fierté. Tout ce qu'ils ont aimé hier. Voilà les gens qui rythment en rire en se partageant chaque pas. Ils ont pris l'horizon en mire, en cadençant d'une, nous voilà. C'est beau, c'est du n'importe qui. Regarde les levers de soleil en se fabriquant une vie. Vivement demain. Et pas pareil. À force d'attendre le grand soir, ils sont partis de bon matin, avec ce qu'il leur restait d'espoir, tout droit. Puisque c'est de là qu'on vient.
C'est eux qui le font couler le sang.
Si Auchan m'avait écouté depuis le début, j'aurais pas fait une fausse couche.
Attendez. Non seulement la famille Mullier ne paie pas d'impôts, mais reçoit de l'argent.
Absolument.
Y'en a pas des pas jolis. Faut les voir écarter le vent. Ils s'en vont, sans la peur d'ici. On peut pas s'enfuir en marchant, si. Sans haine, sans aigreur, ça virevole. Ils emportent loin des maisons la récolte de leur révolte. La terre suit sa révolution. Ce que avant pourquoi, qui agitent leur joyeuse commune. Ils ont pris l'évidence pour loi, du rêve en vrai, pour leur fortune. Pas le temps de trancher en roi. Ils sont partis le cœur content. Maman, reste comme ça. Il nous attend, à force d'attendre le grand soir. Ils sont partis de bon matin, avec ce qu'il leur restait d'espoir. Tout droit, puisque c'est de là qu'on vient.